cours de 2018, mais il y a aussi un texte qui est dans qu'on lit dans Éphésiens 3, les versets 14 à 21. Voilà pourquoi je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. Et c'est Paul qui dit, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Ce texte, je l'ai reçu comme une interpellation personnelle. C'était aussi une prière que j'ai répétée, une recherche continue, quelque part un petit peu mon fil rouge au long de 2018. Ce chant, ce texte, on les a même aussi une fois partagés lorsqu'on était en prière avec le conseil pastoral comme un mot d'ordre au mois de mars. Et puis en même temps, je crois que c'était aussi un cri de mon cœur pour connaître cet amour du Père, pas seulement avec ma tête, mon intelligence, mais aussi avec mon cœur, recherchant une relation avec le Père. Et tout au cours de 2018, ben voilà, je pense que le Seigneur m'a fait, vous a certainement fait des clins d'œil. Et puis dans les chants, il y a des paroles qui reviennent, qui nous parlent de l'amour du Père. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne, on l'a chanté une fois. Par ton amour, nous sommes transformés. Et encore dimanche passé, tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Et même dans les chants traditionnels de Noël, vous verrez, il est parlé de l'amour de Dieu. Et puis je pense qu'il y avait d'autres clins d'œil aussi, en tout cas pour moi, et j'espère pour vous, au travers des prédications, des enseignements. Je vais faire une petite rétrospective comme ça, mais en avril, Mathias nous a parlé de Dieu avec nous. Puis Jean-Michel nous a parlé de la place du Saint-Esprit dans nos vies. En mai, c'est Lucien, sur le fait que nous sommes l'habitation de Dieu. Puis Daniel, à propos de Jean 14, que le Saint-Esprit fait sa demeure en nous. Jésus ne s'impose pas autoritairement par des règles, un légalisme, mais il attend un élan d'amour, une relation. Jordana a prêché sur le thème « Un cœur nouveau ». Valentin nous a parlé sur l'intimité avec Dieu. Puis durant l'automne, Mathias a posé cette question « Es-tu fan ou ami de Dieu ?» Et plus récemment, Lucien a partagé sur la grâce de Dieu qui nous suffit, avec les paroles du chant qui ont terminé sa prédication, qui disait « Quel amour et quel prix, sa croix nous donne le pardon. » Autant d'occasions d'être interpellé, enseigné, finalement pas seulement dans ma tête intellectuellement, mais aussi quant à mon vécu, ma relation avec Dieu. Je reste en route, certes. Et j'ai bien aimé cette petite réflexion d'Anne-Françoise dimanche passé. Je ne vais pas ce matin vous enseigner quelque chose de nouveau, soit un concept inhabituel ou connu depuis peu, une idée inédite, mais quelque chose de nouveau, dans le sens d'une pensée renouvelée, qui marque une transformation dans la dynamique de l'homme nouveau qui se renouvelle. Et dans le cadre de ma recherche, de mes attentes, à un moment donné, c'était au mois d'août, lors de la prédication de Jordana, il y a un verset qui m'a interpellé, celui de Matthieu 6, 21. Il est écrit « En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Tiens, c'est gênant ça. Qu'est-ce que le cœur a à faire avec le trésor? Quel est mon trésor? Et avant de poursuivre, permettez-moi juste de faire un petit détour. Toujours en lien quand même avec mon questionnement. Comme certains d'entre vous, ça je le sais, j'ai lu l'année passée un livre écrit par Timothy Keller, un livre très intéressant sur les idoles du cœur. Ce théologien fait le constat que tout peut devenir une idole. Mais qu'est-ce que la définition d'une idole? C'est quelque chose, ou même quelqu'un, qui remplace Dieu, Ce peut être souvent une bonne chose, ce peut être quelque chose de légitime, mais qui petit à petit prend la première place. Alors, je suis sûr qu'on pense tous en premier à l'argent, mais cela peut être aussi une personne, ça peut être un conjoint. Dans ce livre, il parle aussi des enfants. Ça peut être le succès, ça peut être le sexe, ça peut être la puissance, ça peut être même la religion. Même si peu parmi nous sommes prêts à l'avouer, rien n'est plus courant que l'idolâtrie. Ce n'est pas simplement un refus d'obéir à Dieu, c'est une fixation du cœur entier sur autre chose que Dieu. On ne peut pas y remédier seulement par la repentance ou par la volonté de vivre autrement, mais ça je vous laisse découvrir dans le livre. Pour approfondir le sujet, je vous laisse vous référer à ce livre dont le sous-titre est « Quand ce que vous adorez vous déçoit ». Donc en revenant à ce verset de Matthieu 6, 21, si notre trésor est une idole, notre idole, probablement que nous serons certainement déçus à un moment donné, même si à d'autres moments, probablement que cette idole nous apporte un plaisir qui est peut-être fugace. Mais alors sur cette interpellation de Jésus, est-ce qu'il ne faudrait pas détrôner nos idoles, pouvoir changer de trésor ? Ne faudrait-il pas remplacer cette idole par un autre trésor pour que notre cœur ne reste pas fixé sur cette idole ? Bon, intellectuellement, le principe est assez simple. Je ne sais pas si quand même vous vous êtes posé cette question, quel trésor a place dans mon cœur ? Peut-être y avez-vous réfléchi, peut-être avez-vous une réponse à proposer. Certains diront, eh bien, il y a un Dieu. Ouais, conceptuellement, oui, mais concrètement. D'autres proposeront la Bible. Oui, comme le meilleur enseignement, mais s'il est vécu comme des règles, peut-elle réellement garder notre cœur ? Bon, vous avez sûrement d'autres propositions, suggestions. Je ne vais pas prolonger là-dessus, mais en arrière-fond, justement, de ce questionnement, de cette interpellation, quelques heures après la prédication de Jordana, j'écoutais simplement de la musique, de la louange. Et puis, il y a un chant de Samuel Olivier, un chant du collectif Cieux ouverts, peut-être certains le connaissent, qui parle de ça. Cette question du trésor, pour moi, s'est clarifiée. Le verset dit « Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. » Est-ce que je crois que si mon plus grand trésor, c'est l'amour de mon Père, que cela peut changer mon cœur ? Et le verset poursuit, le refrain poursuit, « Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. » Ce verset, je l'ai fait tourner en boucle ce jour-là, mais dans la suite, dans ma tête. Et je vous invite aussi à le laisser résonner ce matin dans votre cœur en écoutant ce chant. Merci, Cécile et Martine.
C'est l'amour de notre Père.
Voilà ces belles paroles. Et quelque part, c'est le point principal de mon témoignage ce matin. Et selon Éphésiens 3, verset 19, effectivement, notre objectif de vie, c'est connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Ou dit autrement, que l'amour du Père soit notre plus grand trésor. Or ce matin, si vous retenez seulement ça et que vous le repassez dans votre cœur ces prochains jours, cela suffira. Je pourrais m'arrêter là, mais peut-être voilà, quelques réflexions. Quelques implications, quelques applications. Un premier aspect, et c'est vrai que j'avais depuis plusieurs mois envie de partager sur ce thème, mais heureusement que je ne l'ai pas fait avant, parce qu'il y a des choses qui sont encore arrivées durant l'automne, et en particulier les enseignements d'Anne Merlot au début novembre. Et ça m'a interpellé lorsqu'elle a dit ça, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, l'on ne parle certainement pas du même amour que celui des êtres humains. Parce que pour nous humains, l'amour peut être conditionnel. On sait les parents qui disent à leur enfant « Tu as été très gentil, je t'aime très fort. » Ce qui veut dire que s'il n'avait pas été gentil, on l'aurait aimé moins fort. Non, mais c'est, voilà, c'est message, c'est contre-message. Hein. Et puis on sait, on exprime aussi que l'amour humain peut être possessif, que l'amour humain peut être jaloux, égoïste, à double face. Bon, une certitude, lui, le cœur de Dieu n'est pas partagé. Et le verset 19 d'Éphésiens 3 parle de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est certainement un amour inconditionnel. Et je crois que plus nous avançons dans cette réflexion, plus nous devons nous rendre compte à l'évidence que nous ne savons pas ce qu'est le véritable amour. Ne serait-il pas d'une toute autre nature que ce qu'on a pu penser jusqu'à aujourd'hui? N'est-il pas du domaine éternel? Cela veut dire qu'il ne peut pas mourir. Nous avons donc tout à apprendre. Et pour cela, nous avons besoin de Dieu, car l'amour, c'est son domaine à lui. C'est Jean, dans 1 Jean 4,8, il est dit « Dieu est amour ». Et dans le texte d'Éphésiens, au verset 18, Paul prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et j'ai lu une réflexion à de mémoire, je vous retransmets cette interprétation possible. La largeur, c'est que ça s'étend large, large, large. Ce n'est pas que les petits péchés qui sont pris, mais même ceux qui sont grands et qui sont très loin. Ça va jusque plus loin que les bords. La longueur, c'est depuis hier, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi pour demain. Ça dure toute notre vie terrestre. Ce Sauveur qui jamais ne cesse d'aimer d'éternité en éternité. Et la profondeur, c'est vraiment au fond de l'abîme, tout au fond. Là où la miséricorde de Dieu peut aller chercher et laver nos turpitudes, comme le dit Anne Merlot. Et la hauteur, c'est par laquelle le pécheur racheté est élevé jusqu'au trône de Dieu, adopté comme fils et fille. Un amour d'une autre dimension céleste. Un deuxième aspect, si recevoir le salut est magnifique, si nous sommes au bénéfice de la grâce au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, et Lucien nous l'a bien rappelé, peut-être qu'il ne faut pas qu'on se contente seulement de notre ticket pour le ciel et que notre marche chrétienne soit juste une veille pour ne pas le perdre ou ne pas nous le faire voler. Si c'est ça, peut-être qu'il nous manque quelque chose. Car il y a plus, selon le verset 20 de ce texte d'Éphésiens 3, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu veut nous adopter, nous faire revenir à notre héritage. Et Luc 15 nous parle de la parabole du Père prodigieux. Ça, c'est la réflexion de Paul Hémès dans un livre, celui du mois de septembre-octobre. Je vous invite à le lire. Et ça, le Père prodigieux, il l'est tant pour le Fils perdu que pour le Fils aîné. Effectivement, Dieu, comme créateur, a un plan original, mais il n'a qu'un seul plan. Il n'a pas un plan B. Et même après la chute, ça reste le même plan. Dieu veut toujours le mettre en action. Il veut faire de ceux qu'il a créés à son image, ses fils et ses filles. La vérité, c'est que Dieu m'aime, comme son Fils Jésus, et qu'il veut être connu de chacun de nous de façon intime. Le cœur du Père veut nous ramener dans sa famille, car il n'a pas abandonné son plan original. Et c'est clair que c'est à moi de choisir, de décider, car Dieu nous donne le libre choix. Parce qu'il n'y avait pas ce libre choix, on devrait être forcé d'aimer, ça ne jouerait pas. Il y a nécessité de rencontrer l'amour du Père déposé dans nos cœurs, permettant d'être en paix, d'être enraciné et fondé dans l'amour, selon le verset 18. Connaître l'amour du Père, sa compassion donne de l'espérance, et c'est dans les Lamentations de Jérémie. Le Père a hâte de nous accueillir à nouveau chez lui, dans notre véritable maison. Nous ne sommes plus donc des orphelins, mais des fils et des filles, et le chant le dit. Et selon Jean 14, 18, Jésus a proclamé ça avant de s'en aller, « Je ne vais pas vous laisser orphelins », on peut parler de l'état du cœur aussi là, « Je vais venir vers vous et je vous enverrai le Saint-Esprit ». Il y a un excellent livre aussi de Daniel Bourguet sur le dernier discours de Jésus dans Jean 14 à 16 qui développe cela. Je vous donnerai les références si vous êtes intéressés. L'Esprit, effectivement, atteste que nous sommes fils et filles dans Romains 8, 16, et il y a un autre verset en Romains 5, 5 qui dit « Le Saint-Esprit nous a été donné pour que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. » Nous pouvons être ainsi attirés par l'amour de notre Père. Et le psaume 40, les versets 6 à 8 l'expriment « Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, ta loi écrite dans mon cœur. » Comme quelque part cette nouvelle filiation fait partie de nous, nous désirons faire la volonté de notre Père Céleste. L'obéissance n'est alors plus une lutte ou quelque chose que nous devons faire. Cela devient naturel parce que nous le faisons de bon cœur et par amour. Quelque part, le ciel se connecte avec la terre. Ce qui est du domaine spirituel, surnaturel, rejoint notre quotidien, imprègne nos réalités par la seule grâce de Dieu. Attention, ça, ce n'est pas de la spiritualité, hein, ce n'est pas une échappatoire, parce que vous pourriez me dire, ouais, tu rêves, quoi. Mais je crois que sincèrement, l'amour du Père impacte aussi nos questionnements, nos problématiques. Et là, j'ai deux remarques. Une première remarque, dans un article du Christianisme pour aujourd'hui, dans le numéro de décembre, il y a un titre qui dérange un petit peu. Est-ce que je me laisse reprendre par Dieu ? Ne devons-nous pas accepter aussi la réprimande du Saint-Esprit, par exemple, dans des situations de désobéissance ? Et la raison pourquoi Dieu est moins intéressé par notre confort et notre bien-être que par notre salut. Dieu nous aime tant qu'il ne peut pas se taire et cacher la vérité, même si celle-ci doit nous blesser lorsqu'on y est confronté. Et Jésus dit en Apocalypse 3, 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Et le verset 16 d'Éphésiens mentionne que Paul prie pour qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, fortifié par son esprit dans notre être intérieur? C'est quelque part réaligner ce qui se passe entre l'esprit et l'âme. S'aligner sur les principes bibliques. Et ce n'est pas uniquement une réprimande, c'est aussi une transformation, c'est une métamorphose, c'est parfois une conversion. Et une deuxième remarque, je ne sais pas, par rapport aux souffrances, aux persécutions, il y a même ces martyrs de ces chrétiens, je ne sais pas, ces gens qui vont jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous vous questionnez aussi, comment ont-ils fait? Comment font ces chrétiens qui ne renient pas leur foi, même pour échapper à la mort? Est-ce que je serais capable, moi aussi, de tenir le coup? Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Daniel nous a parlé de la forteresse de Masada, de ces Juifs qui n'ont pas voulu céder aux Romains pour ne pas tomber dans la servitude. Et quelque part, je rejoins Daniel dans ce qu'il a dit, que seul l'amour pour le Christ, mais l'amour du Christ aussi, comme valeur de fond, peut donner la force d'aller jusqu'à cette résistance. L'amour du Père comme seule énergie et puissance suffisante pour tenir ferme. Quelle confiance ai-je dans cet amour du Père? Est-ce mon plus grand trésor? Est-ce à quoi je pourrais m'accrocher le plus et même plus qu'à la vie? Donc cet amour, ce n'est pas quelque chose seulement d'idéal, non, mais c'est quelque chose qui peut nous rejoindre très profond. Et puis encore un troisième aspect. L'amour de Dieu comme motivation au changement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, durant notre week-end d'église sur le thème « Appelé à la liberté », c'est Philippe Botman qui a exprimé ça. Mais il parlait ici du changement qui vise la vie de l'esprit, celui pour apprendre le courage de la foi, faire le pas de foi pour entrer dans une vie adulte, inspirée par le Père comme Jésus. Et je vous rappelle aussi cette image qu'il nous a donnée, Philippe. Dieu a un projet pour l'humanité, mais aussi pour chacun de nous. Mais je ne peux pas l'atteindre à cause du péché, je manque la cible. Mais quand j'y aspire, quand je vise le projet de Dieu, le Saint-Esprit vient soutenir ma flèche pour que je puisse atteindre la cible. Dans cette collaboration avec Dieu et l'homme, il faut me rappeler, Dieu fait ce que Dieu seul sait faire quand je fais ce qu'il me demande de faire. Voilà, pour entrer dans ce qu'il fait, oser se lâcher, laisser Dieu par le Saint-Esprit agir, faire ce qu'il doit, c'est clair que si on le fait par amour, le premier pas, cela change ma motivation, mes aspirations. Parce qu'un risque qui reste, c'est celui de carburer à nos propres efforts pour Dieu. Mais je crois que ce que Dieu souhaite, c'est que nous soyons en relation avec lui. Et en synthèse de ce que je vous ai dit, je vais lire quelque part une réflexion de Liliane Favarger, une réflexion qui était dans le dernier journal de Campus pour Christ. Elle dit « Dans mes tentatives pour apprendre une vie d'amour ». Dixit. Hein. Et elle mentionne trois axes pour ça. Premièrement, se laisser saturer de l'inestimable amour de mon Père Céleste. Dans un autre texte d'Éphésiens, au chapitre 5, les versets 1 et 2, dans une version qui s'appelle « The Message », et si on la traduit, voici ce qu'on peut lire. « Regardez ce que fait Dieu et faites de même, comme des enfants qui apprennent à vivre en imitant leurs parents. Essentiellement, ce que Dieu fait est de vous aimer. Passez beaucoup de temps dans sa compagnie et apprenez d'une vie d'amour. Observez comment Christ nous aime. L'amour du Christ n'est pas timide, mais extravagant. Et en nous laissant aimer, gâter par son immense amour, l'amour pour lui, pour les autres et pour soi-même deviendra alors le débordement naturel d'un amour reçu, goûté, expérimenté. Éphésiens le dit bien au verset 19, « Connaître cet amour du Christ afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. » Le deuxième axe, c'est peut-être un peu surprenant, mais voilà, c'est faire de l'ordre dans ma vie, en prenant le temps de regarder de près mon passé, de comprendre ce qui m'est arrivé dans ma famille, dans ma vie. Ces blessures occupent souvent une plus grande place que ce que l'on peut imaginer. Et peut-être que parfois, comme je l'ai dit, il est nécessaire d'accepter les réprimandes de notre Père Céleste qui nous aime. Par son esprit en nous, Dieu veut pardonner ce qui a été traumatisant, afin de faire de la place dans nos cœurs pour son amour. Et je pense qu'au travers des enseignements d'Anne Merlot sur la masculinité et la féminité, je pense qu'au travers du parcours Nouvelle Ève que suivent les dames, je pense aussi au film Le cœur de l'homme que certains parmi vous ont vu, mais je pense aussi simplement par des chants, par la prédication, par un cours, par un enseignement, Dieu peut justement, dans son amour, faire de l'ordre dans nos vies pour nous. Nous ayons plus de place pour l'accueillir. Et puis le troisième axe, et ça c'est un défi, vivre la vie complexe mais ô combien formatrice de la communauté chrétienne. L'Église, c'est notre terrain d'entraînement pour pouvoir ensuite sortir dans le monde en pro de l'amour. C'est joli ça, non? Effectivement, l'Église, ça doit être un cadre sécurisé d'apprentissage pour vivre une vie d'authenticité mais aussi de vulnérabilité. Une communauté de personnes toutes conscientes de leurs besoins de Dieu et désireuses d'apprendre cette vie d'amour. Mais ce n'est pas facile pour autant. Mes frères et mes sœurs m'irritent parfois, c'est souvent réciproque. Les différences d'opinion sont nombreuses. Mais voilà, l'Église reste le lieu où l'on apprend à respecter l'autre, à essayer de le comprendre, à demander pardon, à offrir le pardon. Et c'est ça les prémices d'une vie d'amour. Voilà, en conclusion, et c'est comme ça que le résume Madame Favarger, et je pense que Claude Becher serait tout à fait en accord avec ce qu'elle dit. C'est un long apprentissage, car aimer est la preuve ultime de la maturité. Nous avons une vie entière pour l'apprendre. Cette invitation nous garde attachés à Dieu, dépendants de lui, recherchant sa présence et son pardon. Et c'est dans la mesure où je me serai laissé aimer par Dieu et l'aimer en retour que je serai capable d'aimer l'autre et moi-même. C'est ardu, mais c'est possible. Parce que un des versets dit, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Voilà ce qui m'a nourri un peu pendant l'année 2018. Et j'avais envie de vous le partager pour ouvrir justement des perspectives sur 2019, que nous puissions pas seulement comprendre cet amour du Père, mais le connaître. Et je vais prier. Nous savons, Père, que tu nous as donné le Saint-Esprit qui dépose dans nos cœurs ton amour. Et cet amour du Père, nous voulons le recevoir ce matin. Et ce matin, je proclame que cet amour, tu l'as déposé dans le cœur de chacun Et je demande au Saint-Esprit de souffler sur nous maintenant pour que nous en soyons remplis, pour que cela nous mette en marche, pour que cela nous ouvre à ta vie, mais aussi ouvre nos relations les uns avec les autres dans la communauté, mais nous ouvre aussi pour être des pros de l'amour à l'extérieur, dans nos lieux, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre village, nos villes, sur nos lieux de travail ou de rencontre, de service. Nous réclamons, Seigneur, une onction de ta part ce matin pour chacun de nous, pour ceux qui ne sont pas là aussi, que tu les rejoignes, dans le nom de Jésus. Amen.